Chapitre 38. Épopée d'une éclatante victoire. Nos lettres, publiées dans les journaux de Chicago, n'avaient fait qu'augmenter la haine de l'évêque contre nous et l'enflammer d'un désir plus ardent de nous écraser. Son premier acte fut de se réconcilier avec le prêtre Lebel, qui l'avait ignominieusement chassé de son diocèse. Ce prêtre s'était créé depuis une situation enviable dans le diocèse du Michigan. L'évêque de Chicago l'invita un moment à son palais épiscopal et finit par le gagner à sa cause. La réconciliation de ces deux hommes était pour le moins significative pour moi. J'étais cependant plus que jamais persuadé que le Dieu des miséricordes qui m'avait protégé tant de fois m'aiderait à déjouer leurs intrigues. L'atmosphère était remplie de rumeurs les plus bizarres à mon sujet. On disait, entre autres choses, que Lebel avait une telle charge contre moi que je serais envoyé au pénitencier. Quelles étaient donc ces incriminations? Nul ne le savait. Les partisans et les amis de l'évêque jubilaient et étaient sûrs que je serais condamné. Enfin, le moment vint où je fus traîné comme un criminel par le shérif de Kankakee, fait prisonnier à Urbana et livré aux mains du shérif de cette localité. J'arrivai donc ici, le 20 octobre, accompagné de mes avocats, messieurs Osgood et Paddock, et 12 témoins. Monsieur Abraham Lincoln m'avait précédé de quelques minutes. J'étais accompagné du juge David Davis, qui était vice-président des États-Unis, la première fois que je le rencontrais. Après le choix et l'assermentation des jurés, le révérend Lebel fut le premier à rendre son témoignage et à dire ce qu'il savait contre mon caractère. M. Lincoln s'objecta, essayant de prouver que M. Spink n'avait pas droit de me présenter sa nouvelle action. Cependant, le juge Davis en décida autrement. En l'occurrence, M. Lebel avait la liberté de dire ce qu'il voulait et il profita des avantages qui lui étaient donnés. Il serait trop long de relater ici son témoignage qui dura près d'une heure. Je dirais seulement qu'il déclara que Shinicky était l'homme le plus bas qu'il connaissait et que toutes sortes de rumeurs infamantes circulaient sur son compte. M. Lebel se trouva cependant dans l'impossibilité de jurer si les faits rapportés étaient vrais ou faux. Mais une chose était certaine. Il laissa entendre qu'il était profondément affligé de révéler cette chose au monde parce que dans cette affaire était impliqué le nom de sa chère sœur, Madame Bossé. Mais comme il était devant Dieu, sous serment, il lui fallait bien avouer la triste vérité. « Monsieur Shinicky, dit-il alors, a tenté de séduire ma propre sœur, Madame Bossé. Elle-même m'a raconté sous serment toute l'histoire et je sais qu'elle voudrait être ici aujourd'hui pour dévoiler le criminel si elle n'était pas retenue chez elle par la maladie. Cette accusation, enveloppée d'un semblant de vérité, tomba comme un coup de foudre sur mes amis, mes avocats et moi-même. Un homme qui n'a jamais entendu porter de telles accusations contre lui, en pleine cour d'un palais de justice, rempli à sa capacité, ne saurait se rendre parfaitement compte des émotions que j'ai éprouvées en ces heures les plus sombres de mon existence. Mon Dieu seul sait comment je me sentis un moment écrasé. Mon Dieu seul sait les vagues de détresse qui passèrent alors sur mon âme. Après ce témoignage, un silence de mort régnait dans l'assistance. Tous les yeux se tournèrent vers moi et j'entendis, hélas, des voix murmurer « Le misérable !» Ces propos me traversèrent l'âme comme une flèche enflammée. Bien qu'innocent, j'aurais désiré voir la terre s'entrouvrir, m'engloutir et me faire disparaître pour toujours aux yeux de mes amis et du monde. Enfin, M. Lincoln rompit le silence en contre-questionnant M. Lebel. Il détruisit son témoignage en appelant mes 12 témoins, citoyens respectables de Bourbonnais et anciens paroissiens de M. Lebel. Ces messieurs jurèrent que celui-ci était mon ennemi public et qu'on ne devait pas croire un seul mot de ce qu'il avait avancé, même sous serment. À 10 heures du soir, la cour ajourna. Il me serait impossible d'exprimer les sentiments qui alors envahissaient mon âme. Jamais la vie ne m'était apparue plus lourde. J'étais tenté de maudire avec Job le jour où j'étais né. Je pouvais lire sur la figure de mes avocats une inquiétude qu'ils essayaient en vain de dissimuler. « Mon cher Shinicky, dit Lincoln, j'espère renverser demain le témoignage de M. Lebel, mais je dois vous avouer en toute sincérité que j'entretiens des craintes. Je n'ai aucun doute que son témoignage est un parjure du commencement à la fin. Mais il y a le jury. Je me suis trouvé en face de plusieurs cas semblables dans ma vie. La seule manière de détruire la force d'un faux témoignage, c'est d'apporter un autre témoignage réfutant directement le premier et d'en montrer la fausseté. Pouvez-vous établir un alibi ou emmener un témoin qui se trouvait dans la même maison ce jour-là et qui pourrait contredire péremptoirement et directement votre impitoyable adversaire ? Je lui répondis, comment pourrais-je le faire, lorsque mes ennemis eux-mêmes n'ont pas été capables de dire quand j'ai commis le crime dont ils m'accusent ? C'est parfaitement exact de répondre, Monsieur Lincoln. Ils ont en effet refusé de préciser la date. Je n'ai jamais vu deux vagabonds aussi retors que ces deux prêtres. Le complot qu'ils ont tramé contre vous n'est rien moins que diabolique. Vous vous souvenez comment j'ai forcé le Bel à avouer qu'il était entré dans l'amitié de l'évêque de Chicago le jour où il avait consenti à devenir votre accusateur. Sans vous enlever tout espoir de vous délivrer des mains de vos adversaires, il me faut bien vous avouer que j'ai plusieurs raisons de croire que vous serez déclaré coupable, condamné à une très lourde amende ou au pénitencier, bien que je sois persuadé de votre parfaite innocence. Il est très probable que nous aurons à rencontrer demain cette sœur de Lebel. Sa maladie n'est probablement qu'une défaite pour ne paraître à la cour qu'à la suite seulement du témoignage de son frère qui aura préparé l'opinion publique en sa faveur. À tout événement, si elle ne se présente pas à la cour, il faudra envoyer un juge de paix prendre sa déclaration sous serment, ce qui sera de beaucoup plus difficile à réfuter qu'une déclaration verbale. Cette femme est évidemment à la merci de l'évêque et du prêtre, son frère, qui lui feront jurer n'importe quoi. Il n'y a rien de plus difficile que de réfuter le témoignage d'une femme, et surtout lorsqu'elle est empêchée de paraître à la cour. Le seul moyen qui reste demain pour avoir un verdict en votre faveur est que le Dieu Tout-Puissant prenne lui-même votre part en montrant à tous votre innocence. Allez à lui, lui seul peut vous sauver. M. Lincoln était excessivement grave lorsqu'il m'adressa ces paroles qui touchèrent aux fibres les plus sensibles de mon cœur. On m'avait souvent demandé si Abraham Lincoln professait une religion. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais douter depuis cet instant de sa confiance inébranlable en Dieu. En entendant ces mots, des larmes brûlantes et involontaires s'échappèrent de mes yeux. Le visage de M. Lincoln était imprégné de cette sympathie sincère que je n'oublierai jamais. Je pris congé de lui pour me rendre à ma petite chambre sans pouvoir lui dire un seul mot. Il était près de 11 heures. Rendu chez moi, je m'enfermai à clé et je me jetai à genoux pour prier sans être cependant capable de prononcer une seule oraison. La voix de Lebel, lançant ses odieuses calomnies, résonnait sans cesse à mon oreille. Mon honneur et ma réputation seraient à jamais compromis. Tous mes amis et mes fidèles couverts de confusion. Plus que cela, la nouvelle de cette sentence de condamnation se répandrait comme la poudre à travers le monde entier. Ce n'était pas seulement un horrible et hideux fantôme qui se dressait devant mes yeux, mais une énorme montagne prête à m'écraser et sous le fardeau de laquelle il me semblait que je ne pouvais respirer. J'éclatai en sanglots et me surpris à répéter. « Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Vous savez que je suis innocent. N'avez-vous pas promis de ne pas laisser périr celui qui s'abandonne à vous ? Vous êtes le seul en qui j'espère. Aidez-moi, sauvez-moi. » De 11 heures du soir à 3 heures du matin, je ne cessais de prier et d'élever mes mains suppliantes vers le trône de la miséricorde divine. À ma grande confusion, j'avoue qu'à certains moments, je croyais que c'était inutile de prier et de pleurer, car bien qu'innocent, j'étais à l'avance condamné à périr. J'étais entre les mains de mes ennemis. Dieu m'avait délaissé. Qui pourrait s'imaginer les tourments de cette affreuse nuit ? Je souhaite à mes lecteurs de n'avoir jamais à passer de telles heures d'agonie. Je ne voyais devant moi qu'une issue. Celle d'être déshonoré et envoyé au pénitencier le matin suivant. Mais non, Dieu ne m'avait pas abandonné. Il avait vu mes larmes, entendu mes cris de détresse et allait encore une fois me faire éprouver les effets de sa bonté infinie. À 3 heures du matin, j'entends soudain frapper à ma porte. Je m'empresse d'aller ouvrir. Qui était là ? Abraham Lincoln, le visage rayonnant de joie. Je ne pouvais en croire mes yeux. Mais il n'y avait pas d'erreur, c'était bien lui. En me voyant si abattu et les yeux encore mouillés de larmes, il s'exclama. « Courage, mon cher Shiniki, je tiens entre mes mains le prêtre parjure. Bénissez le Seigneur, vous êtes sauvés. Leur diabolique complot est dévoilé et s'ils ne peuvent s'enfuir avant l'aurore, ils seront tués sommairement. » Cette transition trop brusque d'une douleur extrême à une joie inexprimable faillit presque me tuer. Je me sentais comme suffoqué. Je lui pris la main en la baisant et lui dis. « Que Dieu vous bénisse à jamais, mon cher monsieur Lincoln, et dites-moi maintenant, comment pouvez-vous m'apporter de si bonnes nouvelles ?» Voici comment ce bon et grand homme, qui fut auprès de moi le messager de Dieu, me raconta la simple et merveilleuse histoire qui va suivre. « Hier, après le témoignage de Lebel, un des agents de la presse télégraphia aux principaux journaux de Chicago. Il est probable que M. Shinicky sera condamné, car le témoignage du révérend Lebel ne semble laisser aucun doute sur sa culpabilité. Les catholiques romains furent si satisfaits d'apprendre cette nouvelle que les journaux virent leur édition régulière s'augmenter ce jour-là de 10 000 exemplaires. Parmi les personnes qui achetèrent les journaux se trouvait un de vos amis, M. Thérien. Il dit à sa femme que vous alliez être condamné. Madame Thérien, en entendant ces paroles, s'écria : C'est inconcevable, car je sais que M. Shinicky n'est pas coupable. Comment le savez-vous ? De dire son mari. J'étais là quand M. Lebel monta le complot, quand il promit à sa sœur ses 160 acres de bonne terre si elle voulait consentir à faire un faux serment et accuser M. Shinicky d'un crime auquel il n'avait certainement jamais pensé. S'il en est ainsi, dit M. Thérien, nous ne pouvons pas en conscience laisser condamner M. Shinicky. Venez avec moi à Urbana. Vous savez que je ne puis pas faire ce voyage dans la position où je me trouve, mais Mademoiselle Moffat connaît tous les détails du complot aussi bien que moi. Elle se porte bien, rendez-vous avec elle à Urbana. Il n'y a aucun doute que son témoignage empêchera la condamnation de M. Shinicky. Narcisse Thérien partit immédiatement et tandis que vous priez Dieu, Dieu vous envoyait votre libérateur. Mademoiselle Moffat vint justement de me donner tous les détails de ce complot infernal. Je lui ai demandé de ne pas se présenter avant l'ouverture de la cour. Je l'enverrai chercher et je plains Spink et ses deux prêtres parjurent lorsqu'elle rendra son témoignage devant la cour. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne serai nullement surpris de constater demain leur disparition. Toute la ville est soulevée et suspecte les prêtres de parjure. Votre cause est gagnée et demain vous remporterez le plus grand triomphe qu'un homme ait jamais remporté sur ses ennemis. Vous avez besoin de repos aussi bien que moi. Au revoir. Je m'endormis en remerciant Dieu de cette merveilleuse délivrance. Que faisait alors le prêtre Lebel au même moment ? Certes, il ne pouvait dormir, rongé par le remords de son affreux parjure. Il surveillait l'arrivée des trains venant de Chicago. Il était plus que troublé par la nouvelle que deux personnes de cette ville connaissaient son complot et son faux serment. Il appréhendait avec effroi que je fus mis au courant de son affreuse conspiration. Quelque temps après l'arrivée des trains, revenant à l'hôtel, il parcourut les registres et quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il aperçut la signature de Mademoiselle Philomène Moffat, cette même Philomène Moffat qui lui avait déclaré quelque temps auparavant avoir entendu tramer le complot, promettant à sa sœur, Madame Bossé, 160 acres de terre si elle consentait à parjurer pour m'écraser. Il sentit son sang se refroidir. Est-il possible que cette fille soit ici pour me dénoncer et prouver que je me suis parjuré ? Sur le champ, il s'en alla la rencontrer comme elle revenait de chez M. Lincoln. Mademoiselle Philomène Moffat issit de s'écrier en l'apercevant. « Que faites-vous ici ce soir ?»« Vous le saurez demain, lui répondit Mademoiselle Moffat. « Misérable fille, vous venez ici pour me perdre. » « Je ne viens pas ici pour vous perdre, lui rétorqua Mademoiselle Moffat. « C'est fait, M. Lincoln sait tout. » « Oh, mon Dieu !» se prenant la tête. « Mademoiselle Moffat, voici 100 piastres pour vous si vous voulez reprendre le train demain matin pour Chicago. Quand bien même vous m'offriez autant d'or que cette maison peut contenir, je ne m'en irai pas. » Il la quitta abruptement pour aller dire à Spink. « Retirez votre accusation contre Shinicky. Nous sommes perdus. Ils savent tout. » Sans perdre un instant, il se rendit à la chambre du prêtre qui l'accompagnait et lui dit « Hâtons-nous, prenons le train du matin. » Nous n'avons rien à faire ici, tous nos secrets sont dévoilés. À l'ouverture de la cour, la salle des audiences ne pouvait contenir la foule immense qui s'y pressait. M. Spink, pâle comme un mort, se leva et dit au juge « Sa Seigneurie, qu'il me soit permis de retirer l'action prise contre M. Shinicky, car je suis maintenant convaincu qu'il n'est pas coupable des fautes dont il a été accusé devant ce tribunal. » Abraham Lincoln, acceptant en mon nom cette réparation, fit un bref discours, mais un des plus beaux que j'ai jamais entendus, sur les injustices criantes dont j'avais été la victime et sur ces fripons de prêtres qui se parjurent et puis s'enfuient au moment où ils sont appelés à comparaître devant la cour. Dans toute la ville, on me blâmait de pardonner ainsi à mes adversaires et de ne pas reprendre ma revanche. Mais il me semblait entendre mon aimable sauveur. Pardonne-leur et aime-les comme toi-même. Comme on peut bien le penser, Spink n'était pas satisfait de voir son action déboutée. En outre, demandant à l'évêque Aurégan de le rembourser pour ses énormes dépenses, celui-ci lui répondit froidement. « Je vous avais dit que je vous paierais si vous écrasez Shinicky comme vous me l'aviez promis, et voilà que c'est Shiniki qui vous a écrasé. En conséquence, je ne vous dois pas un centime. » M. Abraham Lincoln me défendit non seulement avec le zèle et le talent qui caractérisent un brillant avocat, mais aussi avec ce dévouement et cette noblesse d'un ami sincère envers un ami. Après avoir consacré à ma défense plus d'un an de son temps, plaidé pendant de longues assises, je pensais lui devoir une somme d'argent considérable. Mes deux autres avocats, à la vérité, me demandaient chacun 1000 piastres et je ne trouvais ce montant exagéré. Je le remerciais donc pour ses immenses services, lui demandant de m'adresser son compte, l'assurant de m'en acquitter jusqu'au dernier centime. Je lui demandais seulement de m'attendre, étant donné que j'étais dans l'impossibilité de le payer immédiatement. Il me répondit avec ce bon sourire qui le caractérisait. « Mon cher monsieur Shiniki, j'ai été très fier comme très honoré de vous défendre. Le peu que j'ai fait, je l'ai accompli plus à titre d'ami qu'à titre d'avocat. Recevoir de l'argent pour les services que je vous ai rendus m'enlèverait le plaisir de vous avoir soutenu jusqu'au bout dans votre lutte. Votre cas est unique dans ma vie d'avocat. Je n'ai en effet jamais rencontré personne aussi persécuté que vous et qui ne le méritait pas. Vos adversaires sont des démons incarnés. Je ne connais de complot plus infernal que celui qu'ils avaient tramé contre vous. Le moyen par lequel vous avez échappé à leur piège, ce témoignage inattendu de cette jeune fille intelligente qu'est Mademoiselle Moffat, envoyée par Dieu à cette heure où tout semblait perdu, sont des incidents qui dépassent les bornes de l'ordinaire. Cette circonstance m'a remis en mémoire une vérité que j'ai trop souvent oubliée et que ma mère m'a souvent rappelée lorsque j'étais jeune. Dieu exauce toujours la prière d'un cœur qui le prie. C'était cette pensée de ma tendre mère qui m'animait lorsque je vous ai dit « Allez et priez, Dieu seul peut vous sauver ». Je ne croyais pas cependant que votre prière serait si promptement exaucée et d'une manière si merveilleuse par l'arrivée, si imprévue, de cette intéressante Mademoiselle Moffat la nuit dernière. Et maintenant, parlons donc de ce que vous me devez. Bien, comment me devez-vous? Vous ne me devez rien, car vous êtes probablement ruiné. Je sais bien que les frais d'un tel procès sont considérables. Pensez-vous cependant que je puisse donner à vos ennemis cette satisfaction de vous voir ruiné et surtout lorsque je songe que vous me considérez comme un de vos amis sincères et dévoués? « Je vous comprends, lui répondis-je, et je sais que Dieu ne doit pas oublier que vous êtes le père d'une belle et grande famille et que vous avez à la soutenir. Vos dépenses de voyage, vos notes d'hôtel doivent s'élever à un joli montant. Il ne me semble pas juste que vous ne receviez rien pour votre travail et vos dépenses. » « Bien, dit-il, voici un billet promissoire que vous signerez. » Il me présenta une note ainsi conçue. Urbana, 23 mai 1857. Doit à Lincoln 50 piastres pour service rendu. C'est Shiniki. Après la lecture de cette note, je lui dis « Mon cher monsieur Lincoln, vous voulez plaisanter en me chargeant seulement 50 piastres pour une cause qui en vaut au moins 2000 ?» Me mettant la main sur l'épaule, il me répliqua « Signez cela et tout est dit. » Cette grande bonté de mon défenseur et bienfaiteur me toucha profondément et la pensée qu'il pouvait payer de sa vie ce qu'il avait fait pour moi fit que j'éclatais en sanglots. « Père Shiniki, me dit-il, pourquoi pleurer ainsi? N'êtes-vous pas un homme heureux? N'avez-vous pas terrassé vos ennemis et remporté sur eux la plus éclatante victoire? Soyez assurés de sortir triomphant de toutes vos difficultés. » « Cher monsieur, lui répondis-je, ma joie se trouve diminuée par la crainte de ce que cette victoire peut vous coûter. J'ai vu votre sentence de mort écrite dans les yeux de ces jésuites qui, parti de Chicago et de Saint-Louis, était venu à la cour pour entendre ma condamnation au pénitencier. Combien n'en ont-ils pas fait de victimes? Il changea le sujet de la conversation. « Signez cette note, me dit-il, c'est mon ordre d'exécution. » Puis, devenant grave, il ajouta « Je sais qu'un jésuite n'oublie pas et ne pardonne jamais, mais un homme ne doit pas s'occuper comment et où il doit mourir. Le principal, c'est de mourir attaché à son devoir, au champ d'honneur. »